contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, les réponses de Michel Onfray aux questions du public du Centre dramatique national de Normandie.
Dieu donne aux Hébreux la terre promise, qui irait, paraît-il, de l'Euphrate au Nil. Est-ce que cette théorie pourrait suffire pour régler le problème palestinien ?
Sûrement pas. Je pense que le problème palestinien aujourd'hui, j'ai eu l'occasion un petit peu d'en parler, le problème palestinien, il passe pas par l'opposition entre Israéliens et Palestiniens, mais entre gouvernants israéliens et palestiniens d'un côté, et peuple israélien et peuple palestinien de l'autre côté. La vraie ligne de fracture, la vraie ligne de partage qui est aussi une ligne de fracture, c'est effectivement les gouvernants et les gouvernés. Je pense que les gouvernants ont les mêmes intérêts, la guerre, la possibilité de faire de l'argent de manière personnelle, détourner beaucoup d'argent, gagner beaucoup d'argent, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire qu'il faut des bombes, il faut des avions, il faut payer des armées, un armement, du matériel, ça fait des ventes d'armes, ça fait beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de pots de vin, ça permet de justifier les politiques politiciennes, d'être au pouvoir et ce genre de choses, le clientélisme, et ça c'est aussi bien commun aux Juifs et aux Palestiniens quand ils dirigent. Je rappelle quand même que Yasser Arafat a touché beaucoup d'argent de l'Europe pour la Palestine et que cet argent n'est jamais arrivé en Palestine. On croit savoir que grâce à sa veuve, il se trouve aujourd'hui sur des comptes en Suisse. Tout ça fait qu'effectivement, ça n'est pas le peuple palestinien qui ne bénéficie pas de cet argent considérable. Et d'aucuns m'ont dit, quand je suis allé en Palestine, que ça continuait avec un tas de Palestiniens aujourd'hui qui détiennent les rênes et qui se font des fortunes personnelles considérables, sur le dos évidemment des Palestiniens. Donc je ne veux pas dire que les Israéliens ne seraient pas problématiques pour les Palestiniens, mais je dis que les dirigeants palestiniens sont aussi problématiques pour les gouvernés palestiniens qui font les frais de cette gabegie d'une mafia qui est au sommet de part et d'autre. Après ça, il y a des peuples qui veulent la paix. Et je pense que les peuples veulent la paix. Ils ont juste envie de vivre d'une certaine manière ensemble, pas forcément côte à côte. C'est-à-dire quand vous allez en Israël et que vous voyez comment les choses se passent, en fait, moi j'ai fait un voyage de Jérusalem à la mer Morte, et à un moment donné, vous vous dites, mais on est où là ? Ben alors, on est en Palestine. Ah bon, puis ici, ah ben là, on est en Israël. Ah bon, puis ici, ben là, on est en territoire palestinien. Et donc, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette mosaïque ? Et quand vous prenez une carte, c'est assez sidérant. Il y a d'ailleurs une simulation, une carte extrêmement intéressante, qui est une carte de la totalité des territoires palestiniens sans terre, c'est-à-dire comme des îles. Alors, c'est un archipel sidérant, c'est-à-dire que quand vous voyez cette carte-là, vous imaginez la Palestine comme ça, c'est totalement explosé. C'est totalement explosé, ce sont des petits bouts partout, etc. Donc, il y a eu une solution sur ce sujet-là. D'abord, il y avait la violence de l'impérialisme, du fait qu'on ait envoyé des Palestiniens qui occupaient une terre en leur disant « c'est pas la vôtre, désormais c'est la nôtre », etc. Donc, des gens qui ont accepté d'être payés en remboursement, d'autres qui n'ont pas accepté, d'autres qui n'ont pas été remboursés. Et puis, la violence qui s'est installée, les pays arabes soutenant les Palestiniens avec le conflit qui arrive, vous connaissez l'histoire. Donc, il y a un schéma qui est extrêmement prégnant, qui est le schéma nationaliste français. C'est notre schéma jacobin, hérité, pas seulement de Robespierre, parce que bon, il faut lire Tocqueville sur la démocratie, pas de la démocratie en Amérique, mais sur le texte sur la Révolution. Et Tocqueville nous dit que la Révolution a recyclé pas mal de thèses de la royauté, qu'il n'y a pas eu une rupture aussi considérable qu'on veut bien le dire. Il n'y a pas eu avant les ténèbres de la monarchie, après les lumières du système jacobin et de la république jacobine. C'est pas comme ça que les choses se passent. Et Tocqueville fait savoir que il y a eu dans la Révolution française une façon de recycler un certain nombre de choses qui procédaient d'une monarchie très ancienne. Donc, ce qui veut dire que l'état fort de Louis XIV, par exemple, est devenu l'état fort des Jacobins et que Tocqueville fait des analyses extrêmement intéressantes sur ce sujet-là. Il se fait que Robespierre a quand même massacré, enfin quelques-uns avec lui, mais a quand même massacré tout ce qui était fédéraliste, tout ce qui était girondin, tout ce qui supposait que la province existait, il n'y avait pas que Paris. Et on va pas refaire l'histoire de la Révolution française, mais le triomphe du jacobinisme, c'est le triomphe d'un État fort et d'une nation qui va devenir, naissance de la nation, Valmy, etc., d'une nation qui va devenir l'horizon indépassable. De sorte que quand vous avez la décolonisation avec Frantz Fanon, avec Jean-Paul Sartre et quelques autres, on reste dans un schéma jacobin hérité de la Révolution française. Un peuple, c'est une nation. Une nation, c'est un État, c'est un drapeau. Et voilà. On veut un État, on veut une terre, etc. Albert Camus ne veut pas ça. Albert Camus n'est pas un jacobin. Albert Camus, c'est un girondin. C'est un libertaire. C'est un anarchiste. C'est un proudhonien. C'est quelqu'un qui dit, mais on démarre pas avec des grandes idées. Du genre, on va vous imposer une nation. Une nation, ça se constitue, ça se décide pas, ça se décrète pas, ça n'a pas de sens. Quand vous décrétez une nation, vous pouvez, parce que vous êtes un régime totalitaire, et puis le jour où le régime totalitaire s'effondre, eh bien vous retrouvez toutes les petites nationalités, toutes les petites tribus, ce qui s'est passé en Yougoslavie fait la démonstration qu'effectivement on ne décrète pas une nation. On peut la décréter, mais c'est d'abord quelque chose qui se vit réellement. Et Camus dit, il n'y a pas d'identité d'un peuple algérien, ça n'a pas de sens. Il y a plein de tribus, il y a des Kabyles qui ne se sentent pas algériens, il y a plein de gens, et puis il y a des Juifs, nous dit Camus, il y a des Juifs depuis très longtemps, et les Juifs sont même les premiers arrivés sur cette terre-là, dit Camus. Qu'est-ce qu'on fait? Si on est dans la logique du FLN, sartrienne, Frantz Fanon, décolonisation, étatique, jacobine, il faut un État, une nation, et on arrase tout ça. C'est-à-dire quiconque n'entre pas dans le moule, eh bien on le décapite, on le détruit, on le met à la mer, etc. etc. Donc le modèle jacobin, comme il fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire étatique et centralisateur, il est indissociable de la violence, de la guerre, de la répression et d'un certain type de totalitarisme. Camus lui disait, mais faisons avec ce qui est. Propre du Girondin, c'est que c'est un pragmatique, c'est pas un idéologue. Robespierre, c'est un idéologue. Quand il parle du peuple, il met un P majuscule au peuple, et le peuple, il le connaît pas. Il sait pas ce que c'est le peuple, il connaît pas. Mais en revanche, le peuple. Alors oui, l'idée du peuple, le concept de peuple, c'est ça, la vertu. La vertu, le peuple, la République, et avec ces jeux-là, il vient vous expliquer que, au nom de la vertu, pour le peuple et construire la République, il faut décapiter le peuple. Donc évidemment, c'est un schéma auquel on peut ne pas souscrire. Camus, lui, dit « je ne souscris pas à ce schéma-là ». Il va pas si loin que ça, hein. C'est moi qui fais une analyse, là, pour le coup. Mais quand on met en perspective les textes qu'il a pu écrire sur ce sujet-là et qui se retrouvent dans Actuel 3, Camus dit « il faut faire avec les gens qui sont là ». Je crois qu'on est à 9-10 millions de personnes à l'époque en Algérie, dont 1 million de gens qui sont venus du continent français, et bien dont certains sont venus en 1830. Donc ça fait combien de générations? Donc les gens qui sont là, ils ont hérité d'un grand-père, d'un grand-père, d'un grand-père, d'un grand-père, etc. Et ils sont là depuis toujours. Enfin, depuis toujours, depuis 1830. Donc ces gens-là sont-ils algériens? Sont-ils, ou est-ce qu'on va leur dire non, vous n'êtes pas algérien? Être algérien, c'est autre chose, c'est une couleur de peau, c'est une religion, c'est une appartenance politique. Camus, il dit, mais moi je suis né là, quoi. Mon père, il était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, mes parents n'étaient pas des colons. Un blanc n'est pas forcément un colon. Et puis un arabe n'est pas forcément une victime exploitée. Il y avait parfois des salauds parmi les arabes musulmans algériens qui exploitaient parfois des blancs, etc. Donc Camus dit c'est beaucoup plus compliqué. Et si on veut un État, alors ça va être terrible. En revanche, fabriquons une confédération. La confédération, c'est là où vous êtes, vous vivez, point à la ligne. Et on fabrique après une structure qui va avec. Ça veut dire qu'on aurait très bien pu l'imaginer, une Algérie algérienne, évidemment, c'était l'heure et c'était défendable, dans laquelle ceux qu'on a appelés les pieds noirs aient leur place aussi. Et tout le monde aurait pu vivre ensemble. Ça pouvait supposer, dans une logique communiste de socialisation des biens, quelques biens confisqués, réappropriés, redistribués, pourquoi pas. On peut imaginer que les choses se passent comme ça. C'était une solution qui n'a pas été choisie. Sartre s'est bien arrangé pour dire par la suite qu'il avait choisi l'Algérie française, etc., etc. Donc personne n'a repensé cette question-là. À chaque fois que je suis allé en Israël, j'ai pensé à Camus en me disant « mais c'est une solution qu'on devrait pouvoir représenter, comme on représente les plats, si vous voulez ». C'est-à-dire que quand vous voyez cette espèce de mosaïque de juifs, de palestiniens, et vous vous dites « mais il y a des arabes qui sont à Jérusalem », et puis tout devient un peu compliqué, mais vous vous dites « mais vous êtes un peuple ». Vous n'êtes qu'un peuple unique. Ce sont des sémites, les uns et les autres. Et qu'on dit, oui, mais enfin, moi, je suis arrivé là avant toi, j'étais là avant toi, etc. Et quand vous traversez...
Le problème, c'est plus l'islam, quand même.
Non, c'est pas l'islam, le problème. C'est l'islam qui instrumentalise le problème. Le problème, c'est le partage d'une terre. Avec, après, des gens qui vont instrumentaliser l'islam. Yasser Arafat, tout au départ, l'islam, il s'en fout. Hein. Ça devient, après, un truc qui l'instrumentalise, et c'est aujourd'hui instrumentalisé par... les gouvernements palestiniens et aussi par les gouvernements israéliens qui ont intérêt à en faire un problème entre juifs et musulmans. C'est pas essentiellement ça le problème. C'est devenu ça le problème, mais c'est pas essentiellement ça. Si on commence à jouer l'histoire de la poule et de l'œuf en disant j'étais là avant toi, l'autre dit non, c'est moi qui étais là avant toi, etc. Vous regardez, vous êtes sur place. Voilà pourquoi il faut arrêter l'idéologie, pourquoi il faut aller sur place. Vous regardez à quoi ça ressemble, la terre d'Israël. Mais vous vous dites, il n'y a personne qui est le premier, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Vous avez des troupeaux qui passent, et puis ce sont des Palestiniens. Vous avez des troupeaux qui passent, et ce sont des Juifs, des Sémites. Et puis probablement, ils prennent le thé ensemble, et puis probablement, ils ont des trucs en commun quand même. Le refus du porc, le prépuce taillé, ce genre de choses, tout ça fait des communautés quand même. Et on se dit, mais arrêtez de croire que vous étiez les premiers arrivés, ou que les autres étaient là de manière secondaire. Vous étiez là ensemble. Donc cette terre que vous avez probablement historiquement partagée, jadis, de manière généalogique, continuez à la partager. Qu'est-ce que ça change au fait que vous puissiez dire « c'est ma terre » ? L'important, vous dites, c'est pas le sol, c'est l'occupation du sol. Vous êtes là, vous avez un voisin qui est à côté, il y a assez de place pour ça. C'est la même chose avec la France, qui est un territoire où on peut accueillir quiconque veut vivre dans une règle du jeu où on n'agresse pas le voisin, on méprise pas le voisin, on détruit pas le voisin. Dans cette configuration-là, la solution, elle est girondine, elle serait girondine. Dernière fois que je suis allé à Tel Aviv, on m'a dit, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la position, ce que vous défendez, c'est la position du président de la République. Connaissez-vous le nom du président de la République ? On ne connaît pas son nom. On connaît le nom du Premier ministre. Mais ce type fait cette proposition-là en disant, d'un coup d'un seul, Israël, Palestine, paf, un pays, un peuple, une nation, on fait comme ça. Et vous dites, ben oui, finalement, il suffirait de dire aujourd'hui, c'est la même terre, elle est partagée, là où vous êtes, peut-être chez vous. Et on peut mettre des Palestiniens chez les Juifs ou les Israéliens, et vice-versa, et on devrait pouvoir vivre ensemble. Qui a intérêt à ne pas vivre ensemble en disant, je veux une terre. Pourquoi avoir besoin du sol, de la terre, de l'enracinement et de ces vieilles obsessions 19e-istes ? Il y a eu le 20e siècle, on a vu ce que cette obsession de la terre avait pu faire et faire faire. Hitler, l'espace vital, l'élargissement de l'espace vital ou ce genre de délire. Mais acceptons que les règles du jeu soient partagées. Donc la solution, elle ne passe probablement pas par les chefs d'État, du genre une poignée de main avec des gens qui font semblant, etc., puis qui après éventuellement instrumentalisent leur minorité en disant « Allez hop, au sud du Liban, balancez-moi des missiles sur Israël » ou éventuellement de l'autre côté en disant « Bon, on a reçu assez de missiles là et on leur balance la même chose, enfin on s'en fout pire, et puis on va les massacrer, etc. » Bien sûr que nous avez toujours des gens, des juifs ultra-orthodoxes avec lesquels on ne pourra jamais composer et des gens du Hamas qui sont des ultras du Hamas avec lesquels on ne pourra jamais composer. Solution. Une belle pièce de Aristophane s'appelle Lysistrata. Elle est extrêmement intéressante parce que Aristophane, c'est un comique. Il pense en faisant rire. Et il y a des guerres toujours entre les cités grecques, entre Sparte et Athènes pour les plus célèbres ou pour les plus connues, pour celles dont on se souvient. Et à un moment donné où les femmes disent « on fait la grève du sexe ». Alors j'invite pas à la grève du sexe, je pense pas que ça suffira. Mais ce qui m'intéresse, c'est déjà le principe de la Boétie. C'est de faire de telle sorte que les citoyens cessent d'attendre de leurs gouvernants qu'ils règlent le problème. Du genre, on va voter, on va bien voir. La constitution israélienne est ainsi faite que le pays s'est rendu ingouvernable parce que il y a une proportionnalité quasi intégrale qui fait que le plus petit des partis peut mettre un bazar complet dans la politique totale. Vous êtes rien et vous faites tomber un parti. C'est comme si, Arlette Laguiller pouvait faire tomber un gouvernement et s'allier éventuellement avec une députée du Front National, pour etc. Donc c'est une espèce de jeu des partis qui est terrible et qui fait que la constitution israélienne rend possible l'ingouvernabilité. Comme si, d'une certaine manière, on avait créé ça pour que ce soit ingouvernable et que ça ne puisse être gouverné que par la force, la violence et les militaires. Et le complexe militaro-industriel qui fait la loi en Israël. Je pense que si les gens commençaient à dire « c'est nous qui allons faire le pouvoir, qui allons prendre le pouvoir, qui allons faire la politique », en disant « on va plus accepter ça, on va plus faire ça, on va plus se comporter comme ça », c'est-à-dire « soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres », eh bien il y a plein de choses qui seraient définitivement possibles. Qu'on arrête dans la logique théocratique un petit peu d'attendre un dieu, d'attendre quelqu'un qui nous dirait il faut faire ceci, l'homme providentiel, etc. C'est tellement facile. On est dans sa chaise, assis dans son fauteuil, on râle, on n'est pas content, et puis on attend la personne providentielle qui va régler les problèmes pour nous. Non, on peut les régler très précisément en faisant un certain nombre de choses. Et les femmes ont cette espèce de talent pour la vie qui fait qu'il n'y a pas de toréador femme. Enfin, il y a quelques cinglés, ça existe aussi, mais il n'y a pas de toréador femme. Il y a beaucoup moins de femmes en prison que d'hommes, parce qu'il n'y a pas de testostérone chez les femmes. Et il y a toujours la testostérone chez les hommes. Et regardez à Daesh, où est-ce que vous avez, dans l'État islamique, où y a-t-il des femmes combattantes ? Et elles sont là derrière, elles servent de d'objets sexuels aux gens qui combattent, mais on voit bien qu'il y a chez les femmes une espèce de, alors probablement pas politiquement correct de dire qu'il y a chez les femmes des vertus qui ne sont pas chez les hommes, mais je pense qu'il y a, du fait que les femmes donnent la vie, portent la vie, sont dans une logique de vie, ne portent pas, ne sont pas affectées par la testostérone, une capacité à dire on arrête tout ça, on en a marre de voir nos maris, nos enfants, nos époux qui vont se suicider, qui vont mourir, qui, etc., etc. Il y aurait là une espèce de vague populaire extraordinaire contre lesquelles les gouvernants ne pourraient rien faire. On peut rien faire contre des gens qui ont décidé que ça suffit, basta, on arrête, on termine tout ça. Donc, j'en avais parlé quand je m'y trouvais, et il y a une dame qui est venue me voir à la fin de ma conférence, elle me dit, c'est ce qu'on fait. On est en train de fédérer les femmes justement pour obtenir ça. Pour obtenir qu'en Israël, on dise « ça suffit », cette espèce de bipolarité qui consiste à dire « l'autre, c'est l'ennemi, l'autre, c'est le salaud, l'autre, il veut me tuer ». Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Quelques-uns, testostérone oblige, veulent absolument l'ennemi en face, justement, pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir se combattre. Mais il y a plein de garçons, il y a plein de jeunes filles qui n'ont pas envie de faire 2-3 ans de service militaire avec des armes tremblant, comme j'en ai vu quelques-uns, en disant « s'il se passe un truc, je tire, j'abats tout le monde parce qu'ils sont sur des territoires occupés ». Faut arrêter ça. Et ça ne s'arrêtera pas avec les gouvernants. On avait, je parle presque au passé parce que c'est presque terminé pour nous, mais avec Obama, un homme qui voulait faire la paix. Il le voulait vraiment, pas pour des raisons de politique politicienne, parce qu'il a le sens de l'histoire, parce qu'il savait que lui, plus qu'un autre, pouvait le faire, parce que c'est souvent l'option des démocrates contre les républicains. Et il ne l'a pas fait. Il n'y est pas parvenu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la main sur les gens qui, eux, ont la main sur le conflit, et qui sont les militaires, les industriels, les financiers, les politiciens, les banquiers, tous ces véreux qui ont intérêt à ce que la guerre continue. Pendant que les deux peuples en ont assez, ils ont juste envie que les enfants aillent à l'école, qu'on puisse aller se faire soigner dans un hôpital, qu'on ne soit pas humilié quand on est palestinien, à être obligé de passer des checkpoints où vous êtes obligé d'attendre, parce qu'on a décidé que sous le soleil, vous allez attendre 2 heures, et puis le lendemain, vous allez passer en 4 minutes. Mais c'est comme ça, fait du prince, décision de testostérone, là encore. C'est pas facile de fédérer les gens, c'est pas facile de leur dire « vous avez du pouvoir ». Quand la Boétie dit « soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre », ils donnent le mode d'emploi. C'est pas compliqué, on le donne le mode d'emploi. Maintenant, c'est pas facile, parce qu'on attend que le voisin commence. On dit « bah vas-y toi ». L'autre dit « bah vas-y toi ». Et puis tout le monde dit « vas-y toi », et puis personne n'y va, et ça continue. Il y a une espèce de fatalité à laisser faire comme ça les gouvernants, alors que c'était un pays magnifique, qu'on humilie les Palestiniens, qu'on leur rend la vie absolument impossible, qu'on rend la vie des Israéliens extrêmement précaire. Elle est exposée, ils ne savent pas s'il va pas leur arriver une catastrophe, le pire ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, avec tout ce espèce de reconfiguration entre les sunnites, les chiites, vous apercevez que d'un seul coup, les ennemis d'hier, États-Unis et Iran, deviennent des amis d'aujourd'hui, parce que avec Daesh, il faut voir comment les relations peuvent se jouer à nouveau, et que vous apercevez que des groupes terroristes s'en vont du côté de l'État islamiste. Et on a des bombes atomiques qui existent, on a du nucléaire qui circule. Tout l'arsenal militaire soviétique nucléaire a été vendu à l'encan. Donc aujourd'hui, on sait très bien que le nucléaire n'est pas une menace qui ne viendrait que des puissances nucléaires en tant que telles. Ceci dit, Pakistan a une bombe atomique et c'est un pays islamique. Donc tous ces jeux-là font que effectivement c'est extrêmement dangereux, parce que vous avez plein de gens qui ont besoin de guerre. Quand vous fabriquez des bombes et que vous construisez des avions, vous avez intérêt à les vendre. Vous n'allez pas le faire en disant voilà, je fais ça comme ça pour le plaisir. Non, il faut les vendre et il faut les remplacer. Et on les remplace quand ils sont cassés. Et on les casse quand on leur tire dessus. Ou quand on a vidé les munitions et les chargeurs. Donc il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils vendent de l'armement, et comme par hasard, les vendeurs d'armes sont ceux qui fabriquent les campagnes présidentielles des candidats démocrates et républicains aux États-Unis. Donc voilà, vous n'allez pas tuer la poule qui vous fait des œufs d'or. C'est ça qui se joue. Donc faut cesser de croire que à Stockholm, en faisant se rencontrer le président d'autorité palestinienne et puis le premier ministre israélien, on va avancer sur un ceci, sur un cela. Ça suffira jamais, parce que le jour où vous aurez un beau papier, vous aurez une belle poignée de main, vous aurez un président des États-Unis qui sera très heureux de faire une photo pour l'histoire, vous avez 3 crétins qui vont balancer un missile, vous avez 3 crétins qui vont venir avec une ceinture d'explosifs pour, je parle beaucoup de crétins ces temps-ci, qui vont arriver pour se faire sauter dans un bus. Et puis voilà, quoi. Vous passez, vous étiez là, paf, vous avez 3 morts, 10 morts. Et pourquoi ? Ou des gens qui envoient des petits garçons ou des petites filles au-devant. Le Hamas fait ça très bien en disant « Mais regardez, ils bombardent des hôpitaux ». Ben oui, mais ils balancent leurs mortiers à partir des hôpitaux. Ils se mettent sur les toits des hôpitaux, ils tirent sur Israël, Israël répond, riposte, et comme par hasard, c'est un hôpital. On dit « Ah, ils bombardent les hôpitaux ». Ouais, mais ils choisissent tous des endroits qui leur permettront médiatiquement de dire « Regardez ». Ils tirent sur des écoles, ils tirent sur des hôpitaux. Ben oui, sauf que eux tirent déjà à partir des écoles et des hôpitaux et prennent les enfants en otage, justement pour que de manière internationale, on puisse dire il n'y a pas pire salaud qu'un Israélien, regardez, il tire sur les enfants. Ça se vaut. Je veux dire, quand on a une arme, de toute façon, on en fait toujours un mauvais usage. Ou 9 fois sur 10, un mauvais usage. Quand on en fait un usage défensif, c'est très bien, mais le testostérone plus arme à feu, ça fait rarement un personnage intelligent.
Merci Michel, je suis pour mettre une femme au pouvoir.
Non, parce que ça, c'est pas... Non, une femme au pouvoir, elle devient un homme. Il pousse du poil. C'est pas comme ça que les choses se passent, parce qu'il lui pousse du poil quand elle arrive au pouvoir. Et comme s'il y avait une espèce de transfusion automatique de testostérone, elle devienne Margaret Thatcher ou ce genre de choses. Et je pense pas que non, je pense que les femmes savent bien faire ce qu'elles font sans prendre le pouvoir. Vous savez, il y a un livre extrêmement intéressant, Faire la révolution sans prendre le pouvoir. Je pense que les femmes font ça très bien. C'est dans la grande tradition mafieuse napolitaine. Vous avez les gros durs, plein de testostérone, qui butent à tout va, mais qui avant demandent un moment s'ils peuvent ou comment ça se passe, etc. Et il y a un génie féminin qui n'a pas à se corrompre, qui n'a pas à se salir, je dirais, avec l'exercice du pouvoir qui lui corrompt. Alain disait « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Il avait raison. Et personne n'y échappe, même les philosophes libertaires à qui on donnerait du pouvoir. Donc il ne faut pas du pouvoir, il ne faut pas prendre le pouvoir, mais savoir qu'il faut jouer la puissance contre le pouvoir. Le pouvoir corrompt. La puissance, c'est autre chose. Et le peuple a une puissance, dispose d'une puissance. Les femmes disposent d'une puissance. Il suffit qu'elles disent « non » et on va être 2, 3, 10 à dire « non ». Et à partir de ce moment-là, C'est ce que Michelet appelait le génie de la révolution. C'est-à-dire, il y a un génie propre au peuple. Et le peuple, c'est ce que détestent évidemment tous les politiciens professionnels. Ils en parlent, bien sûr, en permanence. Mais ils essaient de le transformer en populace. Voilà. Y a-t-il des questions ? Madame, dites-moi. Oui, d'accord.
J'aurais voulu savoir, vous ne nous avez pas parlé de comment il avait réglé ce problème de vie sentimentale, c'est-à-dire le...
Chez Robert Misraïm.
Le fait d'avoir des relations avec 2 femmes en même temps.
Alors, de fait, quand je l'ai invité à écrire son autobiographie, il y avait des considérations générales sur des femmes qui me passaient comme ça. Et puis, moi, je savais 2 ou 3 choses. Et je lui ai demandé pourquoi il n'en parlait pas. Parce qu'effectivement, il y avait un agencement, comme chez beaucoup. Mais il y avait un agencement chez lui dont j'ai souhaité qu'il le mette en évidence, parce que je pensais qu'effectivement, il faut parfois faire ce que Fourier a fait en nous disant qu'il y avait les passions papillonnantes et les passions pivotales. Et il y a un être qui peut être pivotal dans la vie, c'est l'être de votre vie. Et puis autour, des histoires papillonnantes qui vont et viennent, etc. Ça donne, chez Jean-Paul Sartre, les amours nécessaires et les amours contingentes que théorisent l'un et l'autre. C'est-à-dire que Sartre est un personnage que déteste Simone de Beauvoir dès qu'elle le voit. Elle le trouve petit con, prétentieux, moche, etc. Et puis, paf, coup de foudre, elle dit « c'est l'homme de ma vie ». Et ils construisent la vie que nous savons avec la réalité. C'est-à-dire qu'on peut toujours construire la vie avec des idéaux en disant, voilà, l'amour toujours, et puis on fait semblant d'y croire, puis quand ça marche pas, ben, on considère qu'on a du malheur, soit, et que les autres, probablement, ils sont très heureux, etc., quand les autres ne le sont pas plus, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là qui restent du domaine de l'intime, donc on ne parle pas du désir qui s'effrite, qui disparaît, de la transformation du désir érotique en plaisir de vivre ensemble, de vivre à deux, de la disparition de la libido avec le désir, ou avec l'âge, ou avec le temps, de l'apparition de la vieillesse et du corps qui va avec, et on fait quoi de sa libido, et les libidos sont pas forcément les mêmes, il y en a qui vieillissent plus vite que d'autres, indépendamment des âges. Vous avez des libidos qui disparaissent très tôt chez, dans un couple avec une libido en face qui elle, est intacte. Et donc, vous faites quoi et comment? Donc, évidemment, les philosophes dissertent assez peu sur ces choses-là. C'est-à-dire que quand Fourier en parle, il est dans le papillonnant et dans le pivotal, alors que lui, on lui connaît aucune maîtresse, aucune femme, mais des maîtresses qui sont plutôt des prostituées. Donc, pas d'histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il théorise en nous disant il faudrait une sexualité généralisée. Et à l'heure d'Internet, Fourier aurait été très heureux, parce qu'il y a effectivement des gens qui ont des désirs sexuels extravagants, des passionnés du gros orteil. Voilà, il y a des gens qui sont des fétichistes du gros orteil. Bon, ben, ça va bien. Pour ça, il faut trouver quelqu'un qui accepte qu'on adore son gros orteil. Et donc, il faut que ces gens-là entrent en relation. Mais ça peut durer longtemps. Vous pouvez passer une vie d'abord à ne pas savoir que vous êtes un fou furieux du gros orteil, et puis ensuite, quand vous le savez, passez votre vie à chercher quelqu'un qui aurait cette même furie avec laquelle vous pourriez partager votre gros orteil. Donc, effectivement, chez Fourier, il y avait le phalanstère qui était justement une espèce d'Internet avant l'heure, si vous voulez, qui était le lieu où toutes les passions étaient représentées. Donc, on pouvait avoir toutes les passions possibles et imaginables. Alors, vous en avez qui sont socialement acceptables, d'autres qui sont socialement inacceptables. On imagine bien que la pédophilie, aujourd'hui, est malvenue, et c'est tant mieux, mais que dans les années 70, elle était plutôt bien vue. C'est assez sidérant. Nombre de gens ont fait l'éloge. Pratiquement tous les intellectuels des années 70 l'ont défendu. La nécrophilie, c'est la même chose. Avoir du plaisir, avoir des relations sexuelles avec un mort, vous dites, il faudrait avoir son consentement avant. Mais la plupart du temps, c'est difficile à obtenir, quoi. Mais après tout, quand vous êtes dans une logique de consentement, les animaux, c'est pareil, difficile d'obtenir le consentement de son chien. Vous pouvez dire, il a l'air d'aimer ça, donc ça vaut comme un consentement. Enfin, tout est problématique, mais chez Fourier, il y a cette idée que les désirs sont divers et multiples, et qu'on peut aimer des choses diverses, et qu'on n'est pas tenu. Si on aime le gros orteil, on peut aussi aimer la confiture de fraises et les usages sexuels qu'on peut en faire. Donc Fourier dit, tous les désirs doivent pouvoir être satisfaits dans la configuration qui est celle du phalanstère. Donc ça, c'est un idéal. Et de fait, Fourier ne voit pas malice. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il imagine qu'on pourrait dire, oui, mais moi, par exemple, si ma sexualité est violente, et que je rencontre quelqu'un qui veut bien d'une sexualité violente. Donc on est dans le contrat sadomasochiste. Mais quelqu'un qui veut une violence, ça m'intéresse pas. Je veux quelqu'un qui veut pas la violence. Je veux violer quelqu'un. Et mon plaisir, c'est pas qu'elle dise « oui, oui, viole-moi, j'adore ça », c'est qu'elle ne veuille pas, justement. Donc effectivement, toutes les choses un peu compliquées, du consentement, de la difficulté au consentement, de l'impossibilité au consentement, est-ce qu'un enfant peut consentir? Bien sûr que non. À partir de quand cesse-t-on d'être un enfant? Et c'est pas parce que vous avez 20 ans que vous pouvez consentir et que vous avez 13 ans que vous ne pouvez pas consentir. Des fois, vous avez des consentements plus éclairés à 13 qu'à 20. Vous avez des enfants retardés ou des personnes retardées mentalement. Comment peuvent-elles consentir? Donc, ce sont des questions complexes qu'on peut pas, sur le papier, comme ça, résoudre définitivement. Donc, la configuration de Fourier, c'est une configuration de sexualité généralisée qui permet à chacun de trouver sa chacune. Donc, on garde le pivotal. Et la passion pivotale et la passion papillonnante, en nous disant le pivotal, c'est ce qui nous fait rester avec quelqu'un qu'on aime, qu'on veut, et puis il y a le temps qui change les choses, les histoires, les relations, et puis le papillonnage, on voit bien, quoi, le papillon qui va de fleur en fleur, eh bien on a des histoires diverses et multiples, quelles qu'elles soient, avec des hommes quand on est un homme, avec des femmes quand on est une femme, avec deux personnes, trois personnes, dix personnes, c'est la configuration de Fourier. Le nouveau monde amoureux, c'est le texte dans lequel il explique ces choses-là. Sartre et Beauvoir reprennent cette idée, la passion pivotale et la passion papillonnante, et le pivotal, c'est évidemment Sartre pour Beauvoir et Beauvoir pour Sartre, et la papillonnante, ce sont des choses autour. Alors évidemment, à l'époque, on ne sait pas à quoi ressemble leur sexualité, ils ne la racontent pas, c'est par la suite qu'on découvrira avec les lettres, et je vous parle de lettres au Castor en vous disant qu'elles sont contemporaines. Castor, c'est Simone de Beauvoir, hein, c'est le nom de... je crois que je ne me ferai jamais prononcer un mot anglais, donc en anglais, je crois que Beauvoir se dit Beauvoir ou quelque chose comme ça, et que ça a renvoyé au Castor, donc Castor, c'était le surnom de Simone de Beauvoir. Et on découvre d'un seul coup ce qu'est la sexualité de Jean-Paul Sartre, ce qu'est la sexualité de Simone de Beauvoir. Donc Jean-Paul Sartre, plutôt nul, au lit, donc, et il le dit. Il dit, voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Il dit, moi, je suis plutôt un coïteur et un masturbateur, dit Sartre. Donc, en gros, il aimait le travail manuel. Et donc, il n'était pas capable de grand-chose d'autre. C'est la seule fois où il était manuel dans son existence, Jean-Paul Sartre. Non, je m'arrête. Et donc, on découvre qu'ils sont pervers, tous les deux. et qu'il veut des jeunes filles, et que c'est Simone de Beauvoir qui lui rabat les jeunes filles pour les renvoyer dans son lit. Il les utilise, les jeunes filles, et tout ça n'est pas très joli. Je veux dire, Simone de Beauvoir, elle aussi, aime les jeunes filles, et elle est homosexuelle, mais elle est bisexuelle, mais passe sa vie à ne pas le dire. Elle fait silence complet sur la partie homosexuelle de son existence. Et puis après, il bricole des trucs extravagants. Simone de Beauvoir se met à avoir une maîtresse qui s'appelle Sophie Lebon, qu'elle adopte et qui devient sa fille. Jean-Paul Sartre fait la même chose avec Arlette Elkaïm, qui devient sa fille, qui a eu une histoire avec lui. Enfin, donc des choses un peu étonnantes, parce que ces gens qui ne veulent pas d'enfants finissent par adopter des partenaires avec lesquels ils ont couché. Enfin, tout ça est un petit peu compliqué et pervers chez Simone de Beauvoir et chez Jean-Paul Sartre, et ils ont théorisé ça, les amours nécessaires et les amours contingentes, sans qu'on sache vraiment ce qui se passait derrière, jusqu'à ce qu'on découvre, toutes les biographies aidant, où je crois que c'est Liliane Siegel qui avait écrit Bianca Lamblin, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Mémoire d'une jeune fille dérangée », pour montrer quelle perversion il y avait dans le couple Sartre et Beauvoir, et dans cette idée que le papillonnant et le pivotal, c'est pas simple. Ça fait souffrir des gens, et même Sartre souffrait beaucoup moins, mais enfin, des histoires de Beauvoir, et Beauvoir des histoires de Sartre, et les autres, de toute façon, il les faisait souffrir, les jeunes filles qui passaient dans le lit de l'un et de l'autre. Donc il y a une espèce de mixte chez Robert Misrahi entre Fourier, le Fourier du nouveau monde amoureux, et le Sartre des amours nécessaires et contingentes. Alors on pourrait dire, et ça a été dit, que théoriser les amours nécessaires et contingentes, c'est simplement mettre du vocabulaire philosophique un peu compliqué sur le vieux truc bourgeois du mari, de la femme et du cocu. On se dit, voilà, c'est un vieil adultère bourgeois qui se trouve paré d'un vocabulaire de la phénoménologie, c'est-à-dire les amours nécessaires, les amours contingentes, pour justifier ce que beaucoup vivent dans la clandestinité, c'est-à-dire un mariage, un couple, des enfants, et puis une vie libertine en cachette. Et ça a été le cas de Robert Misrahi, donc voilà. Sa femme n'est plus là, il peut le dire, mais il y a cette femme, cette fille, les deux d'ailleurs qui sont associés dans la dédicace au tome 2 de son traité du bonheur, avec laquelle, et femme, il n'a jamais eu l'intention, du moins me le dit-il, je peux le rapporter, mais enfin de divorcer, il a été très, très amoureux, très affecté par la perte de son épouse, il a pensé même au suicide au moment où elle est décédée. Et puis, il y a eu dans sa vie, à côté, en même temps, d'autres femmes qui étaient des histoires plus ou moins voluptueuses, plus ou moins sensuelles, plus ou moins amoureuses, des choses qui duraient un certain temps, plus ou moins longuement, etc. Donc rien que de très banal, en fait, et après, vous remettez du vocabulaire philosophique pour expliquer ce qu'en gros, presque tout le monde fait en cachette, a fait ou fera en cachette. Donc il n'y a rien qui soit vraiment très, très particulier dans cette aventure, si ce n'est un désir de liberté sexuelle, reconnu évidemment au tiers, à autrui, sans qu'il ait pu penser autrement les catégories de liberté qu'en les essentialisant. La femme, l'homme, oui, on peut dire comme ça, mais les désirs sont quand même très divers et très multiples. Vous avez des gens fidèles, qui n'ont pas besoin de se forcer pour l'être, vous avez des gens infidèles, parce que l'infidélité est une nécessité, ils ont besoin de ça, des femmes aussi, vous voyez Catherine Millet, donc il y a des configurations diverses et multiples, avec peut-être des occasions de penser ce qu'est la libido, la sexualité, la sensualité pour les femmes. Il y a un rapport au rapport sexuel, je dirais, qui n'est pas exactement le même. On a l'impression que pour une femme, tout commence, et que pour un homme, tout finit. Que l'homme a obtenu ce qu'il voulait avec le premier rapport sexuel et que la femme pense qu'elle a commencé à donner ce qui va rendre possible une histoire. D'où un malentendu. Il y a l'aspect préhistorique dans cette aventure du chasseur qui considère que les femmes ce sont des proies et qu'il est dans une logique de prédateur et que comme on met les têtes des animaux qu'on a abattus, on a la liste de donjons et qu'on accumule les femmes, mais qu'une fois qu'on a eu une histoire avec une femme, c'est fini, on passe à la suivante. Et il y a d'autres logiques qui sont des logiques, on peut imaginer aussi, même si je ne réduis pas les hommes à ça, tous les hommes ne sont pas comme ça, et toutes les femmes ne sont pas comme je vais dire, mais il y a aussi ce déterminisme physiologique. D'abord, il y a la testostérone chez les hommes, et il faut faire hélas avec. Et puis, de l'autre côté, la maternité, la possibilité de la maternité chez la femme. Donc cette idée qu'il faudrait un homme qui soit le géniteur, qui soit le père, et pendant la grossesse, qu'on ait la possibilité d'avoir un gigot de mammouth qui nous est ramené par l'homme qui ramène à manger, quoi. On est là au foyer, donc auprès du feu, et on s'occupe de l'enfant, on a un gros ventre, on ne peut pas chasser, on ne peut pas suivre les chasseurs. Donc il reste ces choses-là parce que ce sont des choses physiologiques. la testostérone chez les hommes, et puis les testicules chez les hommes et les ovaires chez les femmes. Et quoi qu'en disent les tenants de la théorie du genre, il y a ça aussi. Il n'y a pas que ça. Et les gens de la théorie du genre ont raison de dire qu'il n'y a pas que ça, mais ils ont tort de dire qu'il n'y a que de l'archive, que du texte, que de la culture. Non, il y a aussi, hélas, de la testostérone, et c'est pourquoi il y a autant d'hommes en prison et aussi peu de femmes en prison proportionnellement. Ça, on se voit, il n'y a pas la parité dans les prisons. On va dire, il faudrait la parité, il faudrait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes en prison. Non, je ne connais pas exactement la proportion, mais peut-être 8, 9 hommes sur 10 dans les prisons. Mais enfin, il y a quand même effectivement un déséquilibre sur ce terrain-là parce qu'il y a de la testostérone. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que je prépare une contre-histoire de la Révolution française qui sera une histoire de la Révolution française sans testostérone. Donc, garantie sans testostérone, si vous voulez. Donc, du côté de Manon Roland, Olympe de Gouges, etc. Enfin, toutes ces femmes qui ne supportent pas la pulsion de mort et qui sont dans une logique de pulsion de vie. Même ma chérie, Charlotte Corday, qui tue pour arrêter le meurtre de masse. Elle assassine le tyran. C'est la logique du tyrannicide. C'est-à-dire, j'en tue un pour éviter qu'on en tue des centaines. À l'époque, il y avait des Girondins à Caen qui allaient se faire massacrer à cause de Marat. Et elle va voir Marat pour arrêter Marat en disant il faut le tuer, quoi. Et donc, elle tue Marat pour arrêter la mort, pour arrêter le sang qui coule, pour arrêter la puissance de la guillotine et de la terreur, etc. Donc, il y a effectivement cette puissance de la testostérone qui fait que Robert Misrahi n'a pas abordé ce sujet-là. Je lui ai passé commande d'un livre qui est paru dans la collection dont je m'occupe chez Autrement, qui s'appelle « La joie d'amour ». Et de fait, il n'aborde pas cette question du déterminisme physiologique et biologique. Pour une raison bien simple, hein, il est sartrien, pour lui, on est libre. Et effectivement, s'interroger sur les hormones, c'est obligatoirement penser la question du déterminisme. Des moments où les hormones chez les uns ou chez les autres, ça fait faire des choses, ça fait dire des choses, ça fait se comporter d'une certaine manière. Vous avez besoin de sommeil, n'avez pas dormi, et d'un seul coup, vous êtes quelqu'un d'autre que quand vous avez bien dormi et que etc. La physiologie, ça existe. La biologie, ça existe. Le corps, ça existe. Et penser la question du rapport amoureux dans une perspective hédoniste ou démoniste, ça nécessitait un travail que Robert Misrahi n'a pas fait parce qu'il est resté dans la théorie assez phénoménologique, du genre le tout autre, autrui, enfin, bien, tout ça est fort sympathique, mais on peut aussi aborder la question, ce qu'il n'aura pas fait, par le biais beaucoup plus trivial, du genre que veut le corps, que peut le corps, question de Spinoza, qu'est-ce qu'un corps de femme, qu'est-ce qu'un corps d'homme ? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là ? Qu'est-ce qu'un corps traversé par la testostérone ? Qu'est-ce qu'un corps traversé par les phases lunaires, etc., les règles, enfin toutes ces choses qui font que c'est pas rien ? On a beau dire que les femmes ne seraient que des archives, que du texte et pas du sexe, il n'empêche que la lune produit des effets, les variations de la lune, ça existe, les règles sont en relation avec les cycles lunaires, enfin toutes choses qu'on peut nier. On peut dire que ça n'existe pas, que c'est des trucs de réac, que oui, d'accord, on peut nier ça, sauf que ça a lieu. Et aller voir un endocrinologue, je ne pense pas qu'il y ait des endocrinologues qui soient partisans de la théorie du genre. Parce qu'ils savent bien, eux, que nous ne sommes pas que des archives, que nous ne sommes pas que l'inscription de concepts dans une idéalité, mais que nous sommes de la chair. Les médecins le savent bien. Et ces substances nous travaillent et nous traversent. Et ça n'est pas une question qu'il leur a posée. Dans sa fameuse joie d'amour, parce qu'il reste sur un terrain éminemment théorique, et quand je lui ai dit « raconte vraiment ta vie telle qu'elle a été », puisqu'il n'avait pas l'air d'être gêné par ça, il me dit « bon, de toute façon, il y a des noms, là, de temps en temps, il donne les vrais noms, bon, pour les gens qui... Il y a quelques personnes un peu connues et célèbres pour qui pourraient retrouver le codage, ou à peine le codage, mais ça pourrait être gênant ou blessant, mais je lui avais dit qu'il n'y avait pas effectivement de théorie du corps amoureux, titre d'un de mes livres, parce que je pensais qu'effectivement, penser la question de l'éros, de l'érotisme, de la fabrication de son propre couple, ça passe par une désessentialisation. Il faut désessentialiser. Oui, nous sommes des hommes, oui, nous sommes des femmes, quand nous sommes des hommes et des femmes, mais il y a des hommes qui sont plutôt féminins, et des femmes plutôt masculines, et puis des périodes dans la vie dans lesquelles on est plutôt masculin, plutôt féminin, et puis la testostérone travaille les corps en plus ou moins grande importance. Le tempérament de la jeunesse n'est pas le tempérament de l'âge mûr, qui n'est pas le tempérament de la vieillesse. Vous avez des gens dont les libidos sont extraordinaires à 90 ans, et puis vous chez des hommes, et puis vous avez des gens dont la libido s'envole à 35 ans, 40 ans, ça existe, et pourquoi le Viagra est là d'ailleurs. Mais ce sont des questions qui n'ont pas été posées par Robert Misrahi. Donc son épouse, sa famille, le bonheur de la passion pivotale de son épouse, plus le plaisir des passions papillonnantes avec un certain nombre de femmes qui traversent son existence. et qui, mais je n'irai pas plus loin, m'ont donné une version qui ne coïncide pas forcément avec la sienne.
Il y avait quand même le fait que sa femme avait un métier et qui ne portait pas, ne partageait pas les mêmes opinions.
Oui, alors, sur cette question, je lui ai dit, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait ça chauffait la maison ou quoi? Il dit, on a décidé de n'en jamais parler.
Mais donc, c'est peut-être.
Non, pas forcément. Quand vous avez des sujets qui fâchent, enfin, il y a deux hypothèses. Soit le sujet qui fâche, vous l'abordez, mais si vous l'abordez et que ça fâche, c'est problématique. Et si la fois suivante, alors que déjà vous avez abordé ce sujet qui fâchait et que normalement une espèce de paix de l'intelligence s'était faite sur le sujet qui fâchait et que ça permet de se fâcher encore parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une compulsion de répétition, ce qui fâche, fâche. Donc soit on continue à se fâcher tout le temps, soit un jour on arrête d'aborder la question parce qu'on sait que de toute façon ce sera un sujet de conflit. Alors on peut avoir en face de soi quelqu'un qui dira « Oui, j'ai entendu, j'ai compris, et de fait, il y a un problème de ce type-là, sur ce sujet-là, sur etc., donc je vais m'amender, je vais faire ce qu'il faut pour », et puis qui ne fera rien du tout, et qui va continuer à être dans la même relation au temps, à l'espace, à la parole donnée, ou à je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faites? Donc, si c'est sans cesse un sujet qui fâche, ou vous continuez à vous fâcher, et puis on voit ce que ça peut donner, ou alors vous vous dites « ça ne changera jamais, donc j'en parle pas, j'en parle plus », puis chacun fait son deuil. Alors l'un fait son deuil de ça, l'autre fait son deuil d'autre chose, parce qu'il n'y a pas des héros et des salauds dans les couples. Hein. Chacun son tour, on est héros, chacun son tour, on est salaud, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, l'autre fait des choses qu'il ne devrait pas faire, et puis voilà, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse du « on se dit tout ce qui ne va pas », parce qu'on croit à la possibilité de s'amender, et donc on dit, moi je crois à l'inconscient lacanien, je crois à l'inconscient freudien, je crois que nous sommes déterminés par l'inconscient, etc., thèse de l'épouse de Robert Misrahi, ou lui qui dit, pas du tout, moi je crois à la liberté totale et absolue, nous sommes ce que nous faisons et rien d'autre. Et à un moment donné, vous savez comment sont les gens, souvent, ce sont les dîners de famille, les repas de Noël, où vous avez celui qui croit en Dieu, celui qui n'y croit pas, le laïcard de gauche et le calotin de droite, et où immanquablement on finit par s'envoyer le gigot à la figure, et on finit par farcir son voisin de dinde au marron, parce que on dit ça recommence, tous les ans c'est pareil, il va nous refaire le coup, jadis de la guerre 14-18, après de 39-45, après de la guerre d'Algérie, maintenant de mai 68. Et on va y avoir droit, elle va nous reparler de mai 68, etc. Et puis aujourd'hui, on commence à dire « Ah, mais Mitterrand, 80, le Panthéon, etc. » On dit « Ça y est, c'est reparti. » Donc on ne se refait pas, soit vous dites « Bon, on fait silence là-dessus, ou alors vous avez de l'agressivité, et puis vous y allez, quoi. » Alors, lui m'a dit, on a eu l'occasion de se parler de ces choses-là, évidemment, l'un et l'autre savaient ce que ça voulait dire, être spinoziste, être sartrien, être freudien, être lacanien. Donc effectivement, on ne fait pas plus opposé entre un freudien, lacanien qui vous dit que vous n'êtes rien du tout, si ce n'est le lieu de convergence de forces diverses et multiples qui vous habitent et qui travaillent votre inconscient depuis que l'humanité est humanité, puisque tout ça s'est transmis jusqu'à vous. Donc vous n'êtes pas libre du tout, et quoi qu'il vous arrive, c'est toujours papa-maman, complexe d'Édipe, etc. Ou alors la position de Robert Misrahi qui dit je ne suis pas déterminé par ce qui est advenu. Si j'ai eu une mère schizophrène internée dans un hôpital psychiatrique, si j'ai eu un frère schizophrène lui aussi interné dans un hôpital psychiatrique, ça ne me détermine que dans la mesure où j'en fais quelque chose. On ne pourra pas dire « Ah oui, il y a eu ceci, donc il y a eu cela ». Il dit non, chez d'autres, ça aurait produit autre chose. Un autre aurait pu aussi entrer en folie. Certains répondent à la violence par la violence. Ils ont été traumatisés, n'ont pas dépassé le traumatisme et rejouent la scène du traumatisme en faisant souffrir un autre qui n'a rien fait. Vous êtes un enfant, vous n'avez rien fait, et vous prenez des choses sans comprendre pourquoi vous les prenez dans la figure, parce que l'autre n'aura pas su les vivre, n'aura pas su faire avec, n'aura pas su composer. Donc voilà pourquoi vous avez des parents qui frappent et des enfants qui sont frappés, puis des enfants frappés qui deviennent des parents frappeurs. Pourquoi vous avez des enfants abusés sexuellement qui deviennent des abuseurs sexuels? Parce que vous avez des gens qui n'ont pas su conscientiser, penser, revenir sur ces choses-là en disant... Et là, pour le coup, je serais plutôt du côté de Robert Misrahi, mais en disant, on n'est pas totalement déterminé de la même manière par ce qui advient. Un enfant frappé ne devient pas forcément un enfant frappeur, un parent frappeur. Même si souvent, je n'ai pas de chiffres qui me permettraient d'étayer ma thèse, mais même si souvent, les parents frappeurs ont été des enfants frappés. Comme souvent, semble-t-il, si on en croit les statistiques, les gens qui sont en prison pour des histoires de viol sur des enfants ont été des gens qui ont été abusés sexuellement dans leur enfance. Mais on ne dit pas assez que la résilience est possible. Les discours de Franz-Olivier Gisbert, les discours de Boris Cyrulnik font du bien, justement parce qu'il y a un moment où on dit, François Roustan, qui est un psychanalyste qui a échappé à la psychanalyse et qui dit des choses extrêmement intéressantes dans un livre qui s'appelle « La fin de la plainte », il utilise l'hypnose du aujourd'hui, François Roustan, un vieux monsieur, mais un psychanalyste qui dit des choses très intéressantes depuis très longtemps, qui contre Lacan à une époque, mais qui reste dans une logique assez freudienne, mais critique, et qui lui dit « mais il faut un jour en arrêter avec la plainte, quoi. Il faut arrêter de dire « j'ai été malheureux, j'ai bien le droit, je le suis encore parce que j'ai été malheureux ». Ben non, on l'a été, ça suffit bien, c'est pas la peine de continuer. Et puis de dire « j'ai été malheureux », il n'y a pas de raison que tu ne le sois pas, tu vas l'être aussi. Parce que ça aussi, ça, c'est une espèce de malédiction qui se transmet dans la logique freudienne. Dans la logique de Misrahi, non. Il y a un moment donné, vous pouvez arrêter la chose en disant « j'ai subi ça, je ne le fais pas subir, j'arrête ». L'électricité se trouve comme coupée, si vous voulez, cette énergie négative. Vous l'arrêtez parce que vous dites « ça passera pas par moi cette fois-ci » et après, vous inventez d'autres choses. Alors, lui, par exemple, je vous dis, il est dans une logique d'invention démoniste. Voilà quelqu'un qui a souffert, je veux dire, le père juif avec ce que ça suppose être juif pendant l'occupation, l'enfant juif avec ce que ça suppose être juif pendant l'occupation, c'est-à-dire la crainte de la déportation, la crainte de la mort, la mère folle, le frère schizophrène. Vous vous dites, il avait tout pour mal tourner, pour faire de telle sorte que ça n'aille pas bien. Et voilà quelqu'un qui se fait le chantre du bonheur, le chantre de l'hédonisme, qui veut produire une éthique et une politique eudémoniste. Alors après, il faudrait voir comment ça marche dans la vie privée. Moi, je ne dirais que ce qui est utile à la compréhension de l'œuvre et ne trahirait pas d'autres secrets ou d'autres choses que je sais de lui. Mais après, il y a le texte, et puis il y a ce qu'on fait du texte. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que l'hédonisme, comme il ou le démonisme tel qu'il le raconte, le présente, etc., il le vit vraiment, il l'a vraiment vécu, il l'a... Peut-être d'ailleurs que dans ce que je vous ai dit, vous avez la réponse à ce que je ne vous dis pas. C'est-à-dire que quand il fait silence sur le regard d'autrui, des femmes qu'il a pu rencontrer dans son existence, il y a une espèce de silence. Il aurait pu aussi interroger ces femmes qui existent toujours pour quelques-unes et leur demander comment elles avaient vécu cette période, comment elles avaient été saisies ces périodes-là par elles. Mais tout ça est problématique. Parce qu'effectivement, chacun y met ce qu'il y met et que l'autre perçoit parfois le contraire de ce qui aura été mis. Parfois, on passe pour quelqu'un d'infidèle sans avoir été susceptible d'être infidèle puisqu'on n'a fait aucune promesse. Quand on dit « oui, mais tu aurais dû », tu vas dire « oui, mais qu'est-ce que l'infidélité ?» L'infidélité, elle existe quand on a promis fidélité. Voilà pourquoi il ne faut pas se marier. Ou alors, quand on se marie... Ah oui, parce que... Ou on se marie ou on ne se marie pas. Quand on se marie... Les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. C'est ce qu'on dit. Quand on dit oui à ça. On ne dit pas oui en l'air pour les photographes et les caméscopes. On dit oui à ça. Les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Ou on se le dit et il faut le faire, on est tenu par ce qu'on a dit. Ou on ne le dit pas parce qu'on sait qu'on ne pourra pas tenir. Et voilà, on ne fait pas. Ou alors éventuellement, avant, on s'explique sur ce qu'on entend par fidélité. Et avant de passer le contrat, on dit « bon, je vais dire ça ». Devant le curé, donc pour ceux qui croient en Dieu, c'est devant Dieu que ça se dit, et pour ceux qui n'y croient pas et qui se contentent de la mairie, eh bien ça se dit devant un officier de police judiciaire, enfin un maire, ou une, comme à Chambois, et devant des témoins. Témoins, ça sert à ça aussi, on a choisi ses copains, ses amis, une ancienne maîtresse, ou des choses comme ça, il y a des gens qui ont cette élégance, et qui disent « je prends pour témoin les gens devant lesquels je veux dire oui, je... » etc. Mais les gens sont tellement peu soucieux de ce qui se dit. Moi, j'ai un filleul, ma compagne et moi avions un filleul, enfin j'ai toujours moi un filleul que j'adore, et quand on s'engage, un filleul laïque, et quand on s'engage à la mairie, on dit des choses lourdes. On ne dit pas « je suis le parrain pour offrir une montre ou je sais pas quoi ». Non, le jour où vous avez un pilote névrosé qui projette son avion contre la montagne et que vous perdez les deux parents, eh bien, c'est vous qui éduquez les enfants, qui dites « les enfants ne viennent bien, je vais m'occuper d'eux ». Il y a pas mal de parrains et de marraines qui disent « oh là là, il faut que j'hérite de celui-là » ou je sais pas quoi. Parce que, justement, quand on s'engage, eh bien, on s'engage sur des mots qui pèsent lourd. la ponctualité, la fidélité, la promesse, la parole donnée, enfin toutes ces choses-là font sens, devraient faire sens du moins, ça fait de moins en moins sens, mais je veux dire que on peut imaginer que quand on s'engage et qu'on se marie et que on promet fidélité et assistance. Les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Assistance, ça veut dire aussi que quand on vous annonce que votre compagnon ou votre compagne a un cancer, on ne se tire pas. Or, moi, j'ai appris que des cancérologues savent que de temps en temps, quand on annonce un cancer dans un couple et qu'une femme a un cancer, le type se dit « Au revoir, je m'en vais. Bonjour, l'assistance. » Donc, il y a plusieurs façons d'être fidèle, il y a plusieurs façons d'être dans l'assistance, mais comme les mots ne signifient plus rien, qu'il y a une espèce de dévalorisation des mots, on dit des choses, puis on fait le contraire, et puis voilà. Moi, je pense que quand on écrit, on devrait être tenu par ce qu'on écrit. Quand on dit, et c'est ce qui me rend assez difficile à vivre aussi, c'est que moi, je crois effectivement que quand on a dit quelque chose, il faut le faire. Quand on s'est engagé, il faut le faire, et qu'il n'y a pas de petits manquements ou de petites trahisons. Et que, hélas, alors évidemment, on peut dire il faut être un peu plus souple que ça, et psychorigide, oui, c'est vrai. Mais c'est aussi le prix qu'il faut payer pour pouvoir dire que sur d'autres paroles, quand elles ont été données, elles ont été données. Et on n'a pas besoin aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il faut tout écrire, quoi. Il faut tout écrire, signer, contre-signer chez le notaire, paf, il vous prend 150 euros. Et alors que moi, je regrette l'époque où sur les marchés, top là, c'était dit. Cochon qui s'en dédie. Et voilà, le philosophe est celui qui devrait être le garant de la parole donnée ou de la puissance des mots. Donc c'est vrai que chez Robert Misrahi, quand il y a cette réflexion sur la joie érotique, la joie d'amour, eh bien, il manque un certain nombre de choses. Des considérations dans la limite physiologique, je dirais, des considérations sur le corps, la chair, sur les hormones, sur toutes ces choses-là. Et puis, version haute, plus spirituelle ou plus spiritualisée, qu'est-ce que la fidélité ? Qu'est-ce que l'infidélité ? Est-ce que la question s'est posée, par exemple, avec souvenez-vous, ça c'est tous les États-Unis, mais je veux dire avec Clinton et la jeune fille comment elle s'appelait ? Oui, voilà, Monica Lewinsky. Est-ce qu'il a trompé ? Ou la fameuse question philosophique d'Ardisson posée à Michel Rocard ? Est-ce que Sucé s'est trompé ? Et Rocard, car des enfin, car Rocard disait. Mais il y a des gens qui disent, bah oui, quand y a-t-il tromperie ? Certains disent, ouais, enfin, embrasser, c'est pas tromper. Faire l'amour, mais sans plaisir, c'est pas tromper. Faire l'amour sans préservatif, ce serait aimer. Mais avec préservatif, c'est pas tromper. Enfin, après, il y a des gens qui racontent n'importe quoi pour expliquer que tromper, c'est pas tromper, parce que tromper, ça commence là. Tromper, ça commence quand on a une deuxième relation sexuelle, etc. En fait, les hommes sont fabuleux pour expliquer qu'ils ne trompent pas quand ils trompent. Mais le regard est déjà adultère. Qu'est-ce qui distingue quand vous avez un regard de désir, un regard d'envie ? Vous vous dites, oui, mais c'est pas pareil, on passe pas à l'acte. On reste très chrétien, quoi. On est dans le passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est pas bien. T'as eu envie, t'es pas passé à l'acte, c'est bien. Tu as résisté à ton désir. C'est bien. Mais si tu n'as pas résisté à ton désir, c'est pas bien. Et on n'a pas l'impression qu'on est trompé quand l'autre a désiré un tiers, quoi. Alors que le désir, il est partout, donc la tromperie, elle est partout aussi. Donc il faut aussi s'entendre sur ce qu'est fidélité, infidélité, quand trompe-t-on quelles sont les modalités de la tromperie ? Parce que bon, vous avez des gens qui considèrent que je te prête ma femme, tu me prêtes la tienne, ça s'appelle un contrat, y a-t-il tromperie ? Non. La fidélité suppose un engagement qu'on aura trahi. Si on ne s'est pas engagé, il n'y a pas de fidélité. Donc après, quand vous dites qu'il y a une histoire comme ça d'un jour ou d'un soir, et qu'on reproche après l'histoire d'un jour ou d'un soir, vous dites « mais me suis-je engagé à plus que ça ?» Après, les gens se racontent des histoires. Donc c'était quelque chose qui pouvait être pensé chez Robert Misrahi dans cette configuration-là, parce que la question de l'altérité, et on verra dans la réflexion sur le Palestinien, sur la figure du Palestinien, la question de l'altérité, elle est vraiment une question réelle et pas seulement une question philosophique. L'autre avec un A majuscule, c'est bien. Mais l'autre véritable, c'est celui qui est totalement opposé à moi-même. D'où la question qui se pose aujourd'hui de la tolérance. Vous avez vu, tout le monde est tolérant. Mais vous avez intérêt à penser comme les gens qui sont tolérants pour être tolérés par eux. Parce que si vous commencez par dire, bah oui, mais non, moi je défends pas le, je ne suis pas un électeur du Front National, mais il faut tolérer. On dit, ah, vous faites le jeu du Front National. Mais elle est où votre tolérance? On tolère justement les choses difficilement tolérables, voire intolérables, sinon ça n'a pas de sens. Donc, justement, dans les questions de fidélité et d'infidélité, et il faut du langage. C'est ce que dit Misraï à un moment donné. Nous sommes des êtres de langage. Donc, disons-nous ce que nous voulons. Engageons-nous sur des contrats. Et respectons les contrats. Mais renégocions les contrats, ça peut exister aussi. Quand on a 20 ans et qu'on s'engage pour la vie, peut-être qu'à 40 ans ou à 50 ans, le contrat mérite d'être renégocié. Plutôt que de se taire, de vivre des choses en cachette ou je ne sais quoi, on peut dire à un moment donné, bon, on n'a plus 20 ans, on a connu des choses ou on a envie d'autre chose ou je ne sais pas quoi. Ce que Misraï dit, en le suggérant juste à un moment donné sur la question de l'être de langage, aurait mérité des développements aussi. Qu'entend-on quand on discute sur des choses et qu'on ne met pas la même chose sous les mêmes mots? Parce que vous avez des gens, vous dites amour, qu'est-ce que vous mettez sous amour? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites je t'aime à quelqu'un? Qu'est-ce que vous dites? Qui est le je qui dit je dans je t'aime? C'est quoi le T apostrophe de celui auquel vous vous adressez en disant je t'aime? Qui est l'autre? Est-ce que vous avez une vraie perception de l'autre ou est-ce que vous avez une perception qui n'est que la vôtre? Est-ce que d'ailleurs l'autre est véritablement comme il est, tout le temps comme il est avec vous? Ou est-ce que parfois, quand vous découvrez que l'autre est sans vous, vous découvrez que c'est un autre personnage? Parfois, vous découvrez, vous savez, il ne faut jamais jouer à ce jeu-là. Vous assistez à la vie de quelqu'un que vous connaissez en dehors de votre présence. Il ne sait pas que vous êtes là et vous l'entendez parler, dire des choses. Vous dites, ah oui, mais je ne connaissais pas cette personne-là. Et vous pouvez vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans avec quelqu'un que vous ne connaissez pas simplement parce qu'avec vous, il aura donné une figure. Et l'autre figure, les autres la connaissent. Et parfois, tout le monde connaît la véritable figure de quelqu'un. Et vous, vous êtes seul à ignorer ce qu'est la véritable figure parce que pendant des années, vous n'avez droit qu'à une fiction qu'on vous propose. Donc le fameux T apostrophe du « je t'aime », il n'est pas si simple que ça. Vous ne savez pas qui est celui auquel vous dites « je t'aime ». Donc on ne sait pas qui est le « je » qui dit « je », parce que le « je » qui dit « je », il croit savoir qui il est. Mais en même temps, celui qui entend « je » dans « je t'aime » pense à un « je » qui n'est peut-être pas le bon « je » non plus. Où est la vérité de mon jeu? Est-ce que je me dissimule? Est-ce que je me cache? J'arrête, vous voulez, parce qu'il reste un troisième mot, hein, si vous avez bien suivi. Donc, il y a imprécision sur le jeu, imprécision sur le T apostrophe. Alors, je ne vous dis pas sur M. Quand quelqu'un dit « je t'aime », qu'est-ce que vous dites à quelqu'un quand vous parlez du verbe « aimer » ? Qu'est-ce que ça veut dire « aimer » ? Est-ce que c'est « tu me valorises, donc je t'aime parce que tu me permets de renvoyer de moi une image qui est valorisante » toutes ces choses-là sont extrêmement mouvantes et vous pouvez être clair sur vous-même quand vous aurez dit « je t'aime », sur le « je », sur le « t » apostrophe et sur l'aime, et 5 ans plus tard, ne plus être le « je », l'autre n'étant plus le « tu » et l'aime devenant quelque chose de complètement différent. Donc ce sont des agencements en permanence, les histoires amoureuses et les couples, qui tiennent, parce que les couples, aujourd'hui, on est parfois dans des logiques de Kleenex. Ça marche plus, on s'en va. Et on en change et on prend un autre Kleenex. Ça se construit, un couple. Ça se fabrique, ça s'échafaude, ça s'élabore. C'est comme le fameux château du tome 1 de Misraï. C'est drôle, l'autre jour, je voyais une image de Hollande. On l'interrogeait sur Valérie Trierweiler. Et il dit, à un moment donné, il y a eu des souffrances, je les pardonne. C'est drôle. Il y a des souffrances, je les pardonne. On se dit, mais attends... C'est toi qui les infliges, les souffrances. Donc on se dit, il y a des gens qui ont l'impression que tout tourne autour d'eux et qu'à chaque fois qu'ils offensent, ce sont les autres qui les offensent. Donc c'est difficile. Et il y a effectivement des gens toxiques. Et dans toute relation, amicale, amoureuse, etc., il faut éviter ce que mon amie Marie Noël, qui était avocate, a qualifié de délinquant relationnel. Et de fait, le délinquant relationnel... C'est effectivement quelqu'un avec lequel on ne pourra pas entretenir de relation parce que, par définition, c'est un délinquant de la relation. Donc jamais là où on l'attend, alors pas clair sur le jeu, pas clair sur le thé, pas clair sur l'aime, quoi.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Devigne. Lundi, Michel Dufresne, une vie.